Merci d'être là avec nous en osmose sur www.osmose-radio.fr. Nous allons au Salon du Bien-être, le Sport et Bien-être, samedi et dimanche prochain, le 16 et 17 mars 2024, au Château de Fargue, au Pontet. Vous pouvez vous renseigner, si vous voulez, au 04 90 03 09 20. Et parmi la programmation du Salon Sport et Bien-être au Pontet, nous aurons le plaisir d'accueillir à 14h Pascal Laurent, professeur de physiologie à l'Université d'Avignon, qui nous parlera de malbouffe, d'obésité, de globésité et de manque d'activité. Mais en plus, il a bien bougé puisqu'il est là avec nous aujourd'hui. Bonjour Pascal Laurent.
Bonjour Serge Cazas.
Vous allez bien?
Ouais, très très bien.
Bon, ben c'est cool. Vous l'activité physique, vous êtes obligé avec ce que vous écrivez.
Écoutez, oui et non. Après, il y a l'âge et comme toute personne, je dirais, on a nos activités, nos préoccupations, donc c'est assez dur. Mais l'important, en fait, c'est pas forcément de faire du sport, en fait, et de prendre le temps de faire du sport. C'est d'être actif tous les jours, en fait, et d'éviter c'est l'activité au quotidien, en fait.
Et puis l'alimentation, la nutrition
Absolument, oui. L'un ne va pas sans l'autre, en fait.
Eh bien, c'est votre sujet, puisque vous avez reçu il y a quelque temps pour l'invraisemblable consultation diététique de Madame Gaïa Globésité.
C'est ça, Gaïa.
Madame Gaïa.
Oui, Gaïa Globésité.
Globésité. C'est ça, ouais. Alors, c'est aux éditions Les Trois Colonnes. Oui. La globésité, je l'ai appris avec vous, c'est une pandémie, en fait.
Oui, c'est ça. C'est une pandémie donc, qui est mondiale, en fait, qui touche pratiquement tous les continents, qui a débuté sur le continent américain et qui, quand on regarde effectivement la carte finalement de l'obésité infantile, on voit très 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 nettement qu'elle a débuté aux États-Unis, qu'elle s'est poursuivie en Europe et que là elle déborde sur le continent asiatique. Et par rapport à votre question, dans le terme, il y a le terme pandémie que vous avez donné, qui est, à mon avis, un faux terme qu'on emploie effectivement, mais qui est un faux terme. Parce qu'une pandémie, c'est il y a une montée, un sommet et une redescente.
D'accord.
Et comme une infection, par exemple, comme le Covid. Le problème, c'est qu'avec l'obésité, ça reste au sommet et ça augmente. Donc, ça peut être une pandémie qui peut durer plusieurs dizaines d'années, voire je dirais plusieurs siècles, pourquoi pas.
Ouais. Pourtant, il y en a des programmes.
Hein. Oui.
Pour lutter contre, oui. Même au niveau international, même en France.
Oui.
Bon, écoutez, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais avoir augmenté le coca de quelques centimes, je ne sais pas si ça lutte vraiment contre l'obésité. C'était un des projets, oui.
Alors bon, il y a certains pays, je crois qu'on nous, on a taxé le Coca-Cola, mais bon, ça reste quand même un produit qui reste très prisé par le public d'une manière générale. Et vous avez un autre pays qui a augmenté les taxes sur les produits sucrés, notamment les boissons sucrées. C'est l'Arabie Saoudite qui a taxé à plus de 50% ces produits-là et qui n'a pas pour autant des effets marqués sur l'obésité. Et notamment, encore, j'insiste beaucoup, mais sur l'obésité infantile et l'obésité de la femme qui est très important dans ces pays-là.
On a eu aux États-Unis il y a quelques années un documentaire qui s'appelait Super Size Me. Je ne sais pas si vous avez suivi.
Non, je ne l'ai pas suivi.
Avec ces enfants là, justement, qui deviennent obèses, mais à cause des McDo qui rentrent à l'école, les distributeurs de coca dans les collèges. C'était assez impressionnant et on a découvert justement ce fléau. Alors, c'est principalement dû à l'alimentation.
Alors,
vous expliquez un peu à Madame Globésité dans votre livre.
Oui, c'est ça. Oui. Alors, Gaïa, bon, c'est vrai que je me suis posé beaucoup de questions en tant que chercheur, mais aussi en tant que diététicien, justement, sur cette problématique de l'obésité, ce que l'OMS a appelé la globésité, puisqu'elle est mondiale, et pour en connaître les diverses raisons. Alors, effectivement, il y a la malbouffe, et notamment l'explosion de l'alimentation industrielle et des produits ultra transformés. Et puis à côté de ça, effectivement, vous avez aussi la sédentarité. Et on avait remarqué ça déjà dans les années 90. Il y avait une étude britannique qui est épidémiologique qui était sortie et qui va étudier effectivement la prévalence de l'obésité sur plusieurs décennies, de 1950 jusqu'à 1990 à l'époque. C'est un papier qui était sorti en 1995, et ils voyaient effectivement, ils avaient déjà vu une augmentation progressive du surpoids au Royaume-Uni, voilà, quelque chose de très, très exponentiel durant ces 40 années. Et il n'y avait pas de corrélation, par contre, avec l'augmentation des avec les calories et la matière grasse, par contre. Vous voyez, il n'y avait pas, au contraire.
C'est la sédentarité,
voilà, c'est exactement. Mais par contre, ils avaient mesuré effectivement une corrélation entre l'obésité et le nombre d'heures passées devant les écrans. Alors c'est très intéressant parce qu'en 60, finalement, c'est la démocratisation de la télévision. Toutes les familles ont une télé ou s'apprêtent à avoir une télé. Dans les années 70, on passe aux trois chaînes, la télé couleur, etc. 80, on a les émissions pour les enfants qui se développent, les télé-réalités, etc. Et progressivement, donc en augmentant le nombre de programmes, le nombre de chaînes, eh bien, on voit une obésité qui est en corrélation avec ça. Et bon, ça s'arrête en 1990, mais bon, vous imaginez avec l'explosion des écrans, ordinateurs, télé et autres, comment on appelle ça, tablettes, etc. Les téléphones, vous avez un téléphone par famille, vous avez un ordinateur par...
Une tablette, un téléphone, une télé, en même temps, une
multitude d'écrans dans une famille. Forcément, dans les années 2000-2020, vous avez une explosion et qui se confirme au niveau de l'obésité.
Donc on a vraiment une corrélation. Les gamins regardent plusieurs écrans en même temps. Hein. Il y a le truc pour les jeux, il y a le téléphone d'à côté, un écran télé en face, c'est impressionnant. Là, j'ai une étude de l'INSEE là, qui vient de sortir. Vous savez que le 6 avril, ce sera la journée internationale du sport. Ouais. Et d'après l'INSEE, 40% de la population française ne pratique pas de sport.
Oui.
Et un Français sur trois n'a aucune activité physique régulière.
Oui. Voilà. Ouais.
C'est impressionnant.
C'est impressionnant, oui. Ouais, ouais. Et c'est une évolution en fait que l'on voit depuis paléolithique, hein, on va dire. Hein. Quand on prend les hommes des cavernes, ils faisaient facilement 12 000 ou 14 000 pas par jour pour pouvoir
manger.
Voilà. Et le mouvement finalement, c'est absolument vital. Hein. Il fallait bouger pour manger et il fallait se bouger pour pas être mangé.
Oui, c'est vrai aussi. J'avais oublié ce petit détail.
Et vous regardez le monde ou le pays les pays occidentaux civilisé, on va dire, dans les années 60-90, on est à 7000 pas par jour, à peu près, en moyenne. Mmh. Et puis aujourd'hui, on arrive à 4500, 5000 pas. Voilà, il y a une dégringolade qui est progressive.
Hein. Alors, on préconise 10 000. Hein, vous êtes,
c'est ça,
vous
oui,
savez pourquoi
oui.
on prog- non
parce que je pense que c'est là où l'on a démontré, dans la théorie, effectivement, qu'avec 10 000 pas, on était protégé contre les pathologies cardiovasculaires, par exemple, ou les pathologies chroniques.
Hein. Parce que justement, cette sédentarité, cette malbouffe, ça crée quand même des maladies,
absolument.
Des pathologies,
oui, oui.
notamment
oui.
au cœur. Hein, c'est ce que,
oui, c'est ça. Oui. Et on sait depuis aussi quelques décennies déjà que la sédentarité est un facteur de risque à part entière, indépendamment des autres, la malbouffe, etc. C'est un facteur de risque de nombreuses pathologies, notamment les maladies cardiovasculaires.
Mais les thromboses et tout ça aussi, c'est quand on ne bouge pas qu'on reste assis.
Voilà, exactement. Ouais.
C'est assez, je me rappelle déjà, il y a quelques années aussi, un jeune asiatique qui était mort sur sa chaise après je ne sais pas combien de vingtaines d'heures de jeu comme ça sans avoir bougé.
Oui, oui.
On l'a retrouvé raide, quoi.
Oui, oui.
Donc c'est vraiment impressionnant. Quoi.
Oui, oui, tout à fait. Ouais.
Dans votre livre, vous associez quand même bien la nourriture. Qui a évolué. La nourriture, ce qu'on mange, qui a beaucoup évolué et qui est aussi un facteur de cette obésité.
Oui, 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 tout à fait. Alors, mais par contre, ce que je voulais dire, c'est que... Alors, je reviendrai à votre question, hein, mais je dirais, moi, que la sédentarité et la malbouffe, ce sont des facteurs aggravants d'un processus pathobiologique qui existe, effectivement, et qui prédispose certaines personnes à l'obésité. En fait, hein. Et vous avez effectivement l'alimentation moderne hein, du 21e siècle ou du 20e siècle, hein, puisque ça avait démarré déjà à cette époque-là, avec des produits ultra transformés dans lesquels on rajoute pas mal d'additifs, notamment des émulsifiants, qui favorisent effectivement l'assimilation intestinale des macronutriments. Aujourd'hui, l'alimentation, elle n'est plus naturelle, en fait. Hein. Si je fais un petit cours de physiologie, biologie, vous avez l'estomac qui permet finalement de maltraiter dans sa dimension avec l'acide gastrique, le suc gastrique pardon, et les mouvements de l'estomac qui est une poche musculaire qui permet finalement aux aliments d'être décomposés, voilà, et réduits en une espèce de suc. Aujourd'hui, donc ça vous faites ça avec une pomme par exemple, il faut un certain temps pour la digérer. Aujourd'hui, quand vous mangez cartonne en forme, mangeant un Kinder Surprise, donc une mousse au chocolat ou quelque chose comme ça, un gâteau qui a pas de consistance en fait, il y a plus de matrice alimentaire et l'estomac il travaille presque plus. Et vous avez cette matrice là finalement qui est très très vite, qui passe très très vite dans l'intestin. Et comme le sucre c'est un aliment qu'on ajoute, et ben il est très très vite assimilé par l'intestin. Donc il passe rapidement. Et comme il n'est pas utilisé pour à des fins énergétiques, il est stocké dans le tissu adipeux, la matière grasse.
Mais parce que le sucre, ça donne un coup de fouet là, des fois. Oui, mais si on l'utilise pas, du coup, ça devient pas bon.
Voilà, exactement. D'accord. Alors ça donne un coup de fouet si on en a besoin, comme un sportif par exemple. Hein, il va prendre un peu de sucre hein, justement pour redonner ce coup de fouet. Mais le gamin qui reste devant son écran et qui bouffe une barre de céréales, par exemple, là, il n'y a pas besoin de coup de fouet à avoir, hein, si ce n'est alimenter le cerveau qui consomme quand même pas mal de sucre. Mais néanmoins pas suffisamment pour tout consommer.
Évidemment.
Et donc le reste passe en réserve et stocké en matière grasse.
Et ce gras là autour du ventre et des organes, c'est ce qui est dangereux aussi pour le cœur.
C'est ça. Et c'est le sucre hein, qui est transformé en lipide, en matière grasse hein, au niveau des cellules du tissu adipeux.
Ah ben dis donc, parce que notre corps est une merveilleuse machine en fait.
Oui, on l'a mal
fait. Elle fait ça pour nous protéger.
Absolument, non, oui tout à fait. Et pour tout vous dire aussi, hein, Serge, ce métabolisme-là, il est issu du paléolithique. Je reviens là-dessus, mais pour moi c'est primordial de considérer d'où on vient, effectivement, parce que nos gènes depuis le paléolithique n'ont pas changé. C'est l'environnement qui a changé et on a du mal à s'habituer à notre environnement, ce qui nous rend complètement malade. Donc au paléolithique, il fallait manger, effectivement, pour vivre. Et quand la récolte était, la cueillette plutôt, hein, avant de passer à l'invention de l'agriculture, par exemple, lorsque la cueillette, la chasse était bonne, eh ben, on a un organisme qui nous permet de stocker, si vous voulez, de la réserve pour faire face finalement à des périodes de disette hein, où la chasse et la cueillette seront moins fructifiants en fait. Hein. Et donc les réserves finalement nous permettaient de vivre pendant les périodes froides, hein, l'hiver par exemple, lorsque le climat devenait très très mauvais. Et aujourd'hui, bon, c'est l'abondance, donc on n'a plus besoin de chasser, on ouvre le frigo, on bouffe toute l'année quoi en fait. Hein.
Je ne sais pas si vous l'avez lu le livre, je ne me rappelle plus le nom de l'auteur qui est compliqué, mais c'est la petite histoire de l'humanité là. Yael quelque chose. En tous les cas, c'est un très très bon bouquin. Et il dit que lui, justement, que de passer du chasseur-cueilleur à l'agriculteur, c'est déjà c'est ça. La décadence.
Absolument, hein, parce que c'est à ce moment-là, effectivement, qu'on a commencé à découvrir un certain nombre de petites pathologies, ne serait-ce que la carie dentaire.
En fait. Ah bah oui.
Voilà. Ne serait-ce que ça. Et même sur les momies, certaines momies égyptiennes, hein, on a découvert des plaques d'athérome. De l'athérosclérose, des pathologies cardiovasculaires, et même, on sait aussi que lorsque l'agriculture a été inventée, on était moins en moins bonne forme, en fait. Hein, la taille des individus avait diminué, et puis on vivait beaucoup moins longtemps aussi. Donc, effectivement, je confirme ce que
vous dites. Oui, puis il parle des maladies qui se développent, les grippes, enfin, infectieuses, tout ce qu'on se colle, les pathologies les infectieuses, autres,
Bien sûr.
Alors, je redonne son nom parce que, quand même, c'est dommage, c'est Yuval Noah Harari.
Ouais,
le livre s'appelle Sapiens, c'est une brève histoire de l'humanité. C'est un énorme pavé, mais il est excellent.
Ouais, j'en ai entendu parler.
Je vous conseille de le lire. Entre deux invraisemblables histoires de globésité, Gaïa globésité. Donc, on parlait de la nourriture, qui est quand même aussi moins nourrissante. On l'a vu avec, par exemple, les yaourts à 0 degré, à 0%. Il paraît qu'on en mange donc plus, donc finalement.
Oui, non. Je sais pas trop là. Par contre, ce que je sais, c'est qu'on mange suffisamment de calories sous forme de matière grasse ou de sucre, et que par contre, on peut manquer effectivement de micronutriments de type oligo-éléments, minéraux, vitamines, parce que les personnes notamment les jeunes mangent beaucoup moins d'aliments riches. Notamment les fruits et les légumes. Donc on peut souffrir d'une espèce de carence, de malnutrition en certains micronutriments.
On parle beaucoup des probiotiques aussi. petite vie qui nous vit dans nos intestins, je crois.
Oui, oui, c'est ça.
Il y a un rapport avec...
Oui, tout à fait. Et c'est un petit peu ce que je voulais vous dire tout à l'heure, hein, c'est que les bactéries de notre intestin participent à notre bien-être métabolique. Mmh. C'est ce qu'on appelle le microbiote intestinal. Et lorsque ce microbiote intestinal est déséquilibré, parce qu'il manque une ou deux bactéries, par exemple, ou qu'il y a des bactéries qui sont un petit peu pathogènes, là, on peut provoquer une espèce de processus inflammatoire dans lequel, effectivement, avec lequel on peut avoir une assimilation augmentée au niveau intestinal des macronutriments, notamment, et de certaines molécules qui peuvent être à même de préparer un organisme à des pathologies chroniques ou métaboliques, et notamment le diabète, hein, et l'obésité. Voilà. D'accord. Donc si on a ce microbiote intestinal qui est déséquilibré, effectivement, on peut avoir cette problématique derrière. Et les probiotiques, justement, sont avec les prébiotiques, sont des compléments alimentaires qui sont là comme étant censés rééquilibrer le microbiote intestinal. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le microbiote intestinal, il se conçoit à la naissance. C'est la maman, en fait, hein, qui nous donne les bactéries au moment de la naissance, quand passe les voies génitales de la maman, par exemple, hein, on est baigné par les bactéries que l'on trouve au niveau de l'utérus, du vagin. On est baigné aussi par les bactéries que l'on peut trouver dans au niveau du mamelon, de la glande mammaire.
Le colostrum, dans le lait. Non, c'est ça, le colostrum, ce fameux premier...
Et dans le lait maternel, voilà. Oui, tout à fait.
Première tétée qui contient tous les
voilà,
les
exactement. Ouais. Et on sait aujourd'hui que si les enfants ne sont pas allaités correctement, la césarienne, ce sont des facteurs de risque d'obésité, justement parce que le microbiote n'est pas suffisant, et les antibiotiques aussi.
C'est impressionnant. Donc, je me rappelle le docteur Signalé qui faisait le rapport entre l'intestin et pas mal de maladies auto-immunes.
Oui, c'est ça, exactement.
C'est compliqué.
Oui, tout à fait. C'est lié justement à cette assimilation, à cette hyperperméabilité membranaire de l'intestin qui fait que certaines molécules qui sont produites par plein de choses, et notamment des bactéries, peuvent passer dans le sang intégrer et être à l'origine de certaines pathologies auto-immunes notamment.
Alors dans votre livre c'est plus léger quand même, hein. Enfin, le sujet dans votre livre, Madame Gaïa, l'obésité, la consultation diététique invraisemblable de cette dame qui représente la Terre aussi, parce
absolument.
Qu'il y a un double personnage. Ouais. C'est plus léger parce qu'on peut sourire, mais en vérité le sujet est bien là et c'est grave.
Oui, c'est grave. Ouais.
On vous retrouve le 17 mars.
17 mars.
Au salon bien-être, sport et bien-être au Pontet, ce sera 14h pour votre conférence autour de la malbouffe, de l'obésité, de la sédentarité. Vous savez un petit peu, vous allez parler un petit peu des sujets qu'on aborde aujourd'hui.
Voilà, on va parler un petit peu de tout ça, c'est-à-dire de comprendre pourquoi la malbouffe, de voir un petit peu, de comprendre effectivement comment on est arrivé à la sédentarité aujourd'hui, hein, qui est assez problématique d'un point de vue santé, hein, comme je vous l'ai dit, hein, la sédentarité est considérée comme un facteur de risque à part entière, hein, de la pathologie, et notamment cardiovasculaire, et puis aussi je veux dire, mais comme on l'a dit tout à l'heure, à travers le paléolithique, hein, le mouvement, c'est quelque chose de vital. Tout bouge autour de nous, hein, que ce soit l'infiniment grand comme l'univers. Hein, je parlais de Gaïa, l'obésité, entraîné par le courant sidéral, finalement. Mais même au niveau de l'infiniment petit, il n'y a pas mouvement, il n'y a pas de vie si le spermatozoïde ne bouge pas, par exemple. Hein. C'est con.
Oui. Hein. C'est clair. C'est sûr que...
Mais toutes nos cellules sont en mouvement. Toutes nos cellules sont en mouvement. Sinon, il n'y aurait pas de vie. Ça ne serait pas possible. Donc, pourquoi nous s'arrêter de vivre,
ouais, voilà. Ah oui, donc c'est vrai que si on s'arrête...
Voilà, c'est pourquoi s'arrêter de... Enfin, quand on regarde bien, il n'y a que l'espèce humaine qui s'est arrêtée de bouger.
On dit que dans le corps, de toute façon, il faut que ça circule. C'est quand ça s'arrête de circuler ou qu'il y a un problème quelque part que là, ça devient grave.
Absolument.
Donc, ça doit être pareil pour nous. Il faut bien qu'on marche un petit peu. Vous êtes venu en vélo ou à pied?
Alors, j'ai pour principe, effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, de me garer au fin fond de l'endroit où je dois aller,
pour marcher,
pour m'obliger à faire de la marche.
Et ouais, c'est important. Voilà, c'est comme moi avec mon chien, il m'oblige à marcher.
Le parking des Italiens.
Mais l'air de rien, 10 000 pas, c'est pas si facile, hein.
C'est pas évident. Non. Ouais, parce qu'on
arrive à 7000 à peu près en moyenne.
Ouais, c'est ça. On en perd l'habitude. Moi, je les ai fait une fois en visitant la Rome. Ah oui. Voilà, Rome, il y a un problème. Enfin, un problème. Il y a pas autant de comment dire de tram ou de métro qu'il y a à Paris, et on est obligé de faire beaucoup de marches à pied. Et 10 000, voilà, je me souviens, sur une journée j'avais fait 10 000 pas, voilà, hein, pour visiter un petit peu la capitale et plein de choses. Mais bon, c'est quand même lourd. Vous avez une population, ce sont les Amish. J'en parlerai aussi dimanche. Ouais. Les Amish, hein, qui vivent comme au 19e siècle et qui donc sans
voiture, sans moyen de locomotion, sans internet, voilà, sans électricité.
Et qui, voilà, exactement, et qui bossent comme au 19e siècle. Et qui font 10 000 pas par jour. Voilà. 10 000 pas par jour.
Alors moi, j'ai un truc qui est horrible à dire, c'est que j'ai remarqué que j'arrivais à les faire quand j'allais au supermarché. Donc ça fait des 6 000 pas de la journée, plus 4 000 pas au supermarché, c'est peut-être une idée. C'est tellement immense. Mais je sais pas si ça va bien avec l'obésité d'aller au supermarché. Monsieur Laurent Pascal, merci beaucoup.
Laurent. Monsieur Serge Calas.
Je conseille à nos auditeurs de trouver votre livre, L'invraisemblable consultation diététique de Madame Gaïa Globésité. On apprend plein de choses. Puis on apprend surtout à faire gaffe à sa santé, parce que c'est quand même primordial.
Absolument.
Et puis on vous retrouve dimanche 17 mars à 14h au salon Bien-être, Sport et Bien-être au Pontet. Vous serez dans l'amphithéâtre en bas avec votre public. Merci Pascal Laurent.
Ça sera avec plaisir. Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.